Tout le monde savait, plus ou moins des preuves avaient été accumulées sur le fait qu'entre 1952, date de la réintégration de l'URSS dans le mouvement olympique, et 1989, la date de la chute du mur, un système plus ou moins organisé au plus haut niveau avait été mis en place par l'ex-URSS. Et finalement, ce savoir s'était mis en veille et a été réactivé, finalement, on s'en aperçoit, par Poutine à travers l'instrumentalisation des services secrets russes dont il était directeur à la fin des années 1980-90. Nous, ce qui nous étonne, effectivement, c'est que ça a été poussé jusqu'à son paroxysme, c'est-à-dire prise en main de la performance habituellement. Ce sont des fédérations qui entraînent et qui gèrent la performance, alors que là, les services secrets ont tout pris en main. Et ont même géré la question des tests antidopage qui devaient être non positifs pour les athlètes russes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je m'aperçois en tant que sociologue qu'il y a deux poids, deux mesures actuellement avec un retour à une guerre froide où on parle de sport propre simplement vis-à-vis des Russes. Mais on oublie qu'un certain nombre de pays pourraient avoir le même type de problème si des enquêtes sérieuses étaient menées. Je songe par exemple à l'Italie, où 26 cas positifs ont été mis en exergue dans l'athlétisme italien. Or, il faut savoir qu'un système de dopage plus ou moins structuré avait été mis en place dans les années 80-90 en Italie. L'année dernière, un professeur d'histoire de l'université de Berlin, Gisela Spitzer, a travaillé pour le Bundestag et a découvert à partir des archives, à partir d'entretiens avec des anciens hommes politiques influents dans les années 70-1980, le fait que face à l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest avait effectivement mis en place un système d'État structuré de dopage des athlètes allemands de l'Ouest. Et donc finalement, on se pose la question, l'ARD qui a fait son travail en enquêtant sur le dopage des Russes, pourquoi ne fait-elle pas le même travail pour l'Italie? Pourquoi ne fait-elle pas le même travail pour son propre pays, l'Allemagne de l'Ouest? On peut parler également des États-Unis. Il ne faut pas oublier que la chaîne Al Jazeera, dont on parle très peu, a fait un excellent programme sur le dopage aux États-Unis. Personne n'en a parlé. Donc finalement, on se trouve dans un système de traitement politique et médiatique complètement faussé et digne de ce qui se passait lors de la guerre froide dans les années 60, 70, 80.
Est-ce que la découverte de ce système de dopage, paradoxalement, ne montre pas le bon fonctionnement de la lutte anti-dopage ?
Il montre un fonctionnement un petit peu plus efficace, mais les moyens devraient être plus importants et puis l'envie devrait être aussi que tout le monde soit traité de la même façon. Si le dopage apparaît finalement comme dans la logique même du sport de niveau, c'est pourquoi voulons-nous lutter contre le dopage? Si on veut lutter, donc on va à l'encontre de la logique mise en place par le comité olympique, si tu sais, tu sortus, et puis à ce moment-là, donc les budgets vont être énormes. Et est-ce que ça vaut le coup de mettre en place des budgets pour finalement quelques dizaines de milliers de personnes dans le monde?
Et la décision de la Fédération internationale d'athlétisme apparaît, somme toute, du point de vue de la lutte antidopage, normale. Celle du CIO, le Comité international olympique, finalement, de ne pas sanctionner l'ensemble des sportifs russes pour les prochains Jeux olympiques de Rio, elle apparaît beaucoup plus politique.
Mais le sport est politique. Le sport a été instrumentalisé aussi bien au niveau politique par l'Allemagne de l'Est, par l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi par les Occidentaux, la Russie, mais aussi par les Américains. Depuis les années 50-60, le sport est devenu un champ de guerre, un champ d'affrontement qui a pour but de classer chaque système politique, sportivement, mais également au niveau économique. Toute grande nation se doit donc de figurer au plus haut niveau sportif. Par contre, là où la question peut se poser de façon moins évidente, c'est sur le rôle du CIO. Le CIO, finalement, a été confronté à un certain nombre de crises depuis des dizaines d'années, notamment les boycotts en 1980 et 1984. Et finalement, on s'aperçoit que le CIO a été dans la maxime courage, fuyons. On fait le dos rond, on attend que ça se passe et on remet finalement les problèmes aux autres, notamment aux fédérations internationales, et c'est ce qui s'est passé.